C'est chez ODD pour l'élévation de l'âme du Rav Yosef Haïm Sitruk, Ben Emma Simra Zechazarik Levracha. Nous sommes mardi soir, 24 Elul, 5776. Dans moins d'une semaine, nous serons dans l'année 5777. Et la Gemara dit à deux endroits qu'un des moments propices pour que Mashiach vienne, c'est Moshe Shvit, quand on sort de septième année. Il y a un cycle en Israël, en terre d'Israël, de cette année. Première, deuxième, on donne Maaser Sheni, troisième Maaser Ani, 4-5 Maaser Sheni, sixième Maaser Ani, septième Jacher. La Shemitah ou la Shvit, elle a deux noms. Et la Gemara dit que quand on sort de Shvit, alors Ben David, le fils de David, il vient. Le fils de David, c'est le Mashiach que nous attendons impatiemment. C'était quand? C'était l'année passée. L'année passée, en 2015, on va dire, en 5775, on était en Shvit. Quand on est passé en 76, on était en Motse Shvit, en sortant de Shvit. Le Rav, le plus grand rabbin du monde, le Rav Aaron Debstelman Shalita, et le deuxième plus grand rabbin au monde, le Rav Chaim Kanevski Shalita, les deux ont dit qu'on est en Motse Shvit jusqu'à Rosh Hashanah cette année. Toute cette année-là, la huitième année quelque part, elle est appelée Motse Shvit. C'est pas que quand on sort les deux, trois jours après, ou la semaine, ou le mois d'après. Donc il ne reste pas beaucoup de temps. On espère que ça va se passer. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a un Zohar que je cite de temps en temps. C'est dans Parashat Balak. Il y a deux, trois Zohars que je connais, c'est les seuls. Hein. Vous ne croyez pas que je sois un grand Zoharique. Alors, il se trouve dans la page 212 Parashat Balak qui dit que le 25 Elul, donc ce soir dans une heure, nous rentrons dans le 25 Elul, qui est le premier jour de la création. Le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année 1, c'était le vendredi de la création, parce que le premier homme a été créé. Avant, c'était avant l'année 1. Et qui compte ça comme l'année 1, et que quelque part, lorsque le premier homme est créé, on est déjà après l'année 1, on rentre déjà dans l'année 2, et qui disent non, c'était avant l'année 1, et l'année 1, elle commence avec la création du premier homme. Dans tous les cas de figure, dans une heure, nous rentrons dans le premier jour de la création. C'est-à-dire qu'il y a 5777 ans, et le Big Bang. Hi-Or, qui est lumière. Ben, Hi-Or est lumière fut. Big Bang, c'est lumière. Tov. Alors, que dit le Zohar? Il dit qu'une certaine année, c'est dommage, il ne donne pas l'année, à 25 Elul, il y a une étoile qui va apparaître dans le ciel, aux yeux de toutes les nations, et 70 autres étoiles autour. À ce moment, pendant 70 jours, il y aura des guerres dans le monde entier et le Mashiach se dévoile. C'est l'époque du Mashiach se dévoile. On espère qu'il y a quelque chose qui va bouger dès demain. Sinon, la vie continue. Alors, est-ce qu'il faut voir le ciel ou pas? Je crois que le Zohar, il est très... Il parle très haut, il parle de notions très très mystiques. Alors, ça peut être une étoile physique, ça peut être aussi une étoile métaphysique. D'accord, qu'on ne voit pas et il y a quelque chose qui se passe. On devra avoir des résultats, des conséquences de cela physiques sur Terre, oui. Pas forcément des étoiles, mais disons du bois, de quelque chose, du balagan en français. Ça bouge quoi.
Parle de guerre, c'est des guerres militaires
Il semblerait.
Est-ce que le Mashiach
mais c'est pas clair, rien n'est clair parce que. Excuse-moi, parce que. Aujourd'hui, les guerres économiques, c'est des guerres beaucoup plus plausibles que les guerres militaires. Mais je pense qu'à la fin, il faut comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'hégémonie, c'était l'Amérique. Le dollar et le bloc anti-américain, donc Russie, Chine et Iran, essayent de faire en sorte que l'Amérique n'ait plus l'hégémonie du dollar. Et c'est le cas. Parce que aujourd'hui, les petits papiers colorés ne valent rien. Alors, ils jouent le jeu comme si. Dernièrement, un étalon d'argent a été vendu 570 fois. Les gens achètent de l'argent, mais ils achètent le même. Les lingots d'or, ils en achètent, en moyenne, c'est 300, le lingot d'or. Maintenant, la Chine achète beaucoup, des tonnes et des tonnes d'or. C'est elle qui possède vraiment l'or. Et si elle veut un beau jour mettre à plat l'Amérique, elle peut. Qu'est-ce que la raison de l'Amérique ? L'Amérique, elle a une armée, et c'est grâce à cela qu'elle règne. Donc, y aura-t-il conflit militaire ou pas ? Ça commence par l'économique, puis si tu le mets le couteau à la gorge, eh ben, elles savent, ça écrit à propos d'eux, elles savent, tu vivras sur ton épée. C'est ça, ça. Tu prends l'histoire occidentale, d'accord ? Tu prends l'histoire du monde, mais en général l'Occident, tu regardes, c'est qui les grands hommes ? Dis-moi le nom d'un grand homme occidental.
César.
Jules César, c'est quoi ? C'est un conquérant. C'est-à-dire, sur ses mains, il y a des milliers de vies, de sang qui est écoulé. Qui tu dis encore ?
Alexandre le Grand.
Alexandre le Grand, on n'en parle pas. Même son meilleur copain, un beau, il s'est énervé, il a poignardé. Tous les grands noms. Plus il a un grand nom, plus c'est une ordure. D'accord ? Pourquoi ordure ? Il a créé un grand empire. C'est un grand empire, c'est au prix de vie.
Alexandre le Grand était assez proche des Juifs, non ?
Ok, enfin, il était proche des Juifs, c'est vrai, aussi. Ça ne change rien. C'est un meurtrier, d'accord ? Dans le monde juif, c'est quoi un grand homme ?
C'est un héritier de la Torah ?
Moshe Rabbeinu, Aaron, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Eger, Rabbeinu Ari, Rashi, Rambam, le Rif, c'est ça qu'on connaît. On n'a pas des grands hommes.
David
Améler. Mais il est connu en tant que quoi, David Améler ? En tant que conquérant ou en tant que celui qui a écrit les Tehillim, celui qui a voulu construire le temple, celui qui a dévoilé Dieu dans le monde ? C'est ça, sa grandeur.
Moshe, il a fait des guerres aussi.
Aussi, mais ce n'est pas sa spécialité. Il a mis la Torah sur terre. C'est un grand prophète.
Les bons frères en...
Même pas. Il a sorti d'Égypte, et puis c'est tout. Même pas rien, il arrive à la frontière. Donc les grands noms, en tout cas l'Occident, ce qu'il sait, c'est se battre. Ça va changer maintenant. Peut-être ils vont passer à faire des guerres économiques, ou des guerres de football, je ne sais pas.
Tu sais que les élections ont peut-être changé quelque chose ?
Peut-être. Trump, tout ça, c'est certain que si... Bon, en tout cas, nous, on entend Mashiach incessamment sous peu. Les grands de la Torah disent que c'est très très proche, très très proche, on espère. Et pourquoi je vous raconte cela ? Parce que il faut l'attendre, Mashiach. Il faut l'attendre. Un des très articles de foi de Maïmonide, que celui qui ne les croit pas n'a pas parole à Maba, il dit c'est pas simplement croire que Mashiach va venir, mais l'attendre. Quelqu'un qui croit que Mashiach vient, mais ne l'attend pas, il a un problème. Grave. Faut l'attendre. Je l'attends, je suis dans l'expectative, j'imagine chaque moment, oui, non, tac, ça... Qu'est-ce qui se passe ?
Mais après, si on n'est pas suffisamment prêt, si on dit, je vais attendre encore un
peu... On n'est jamais prêt.
Plus prêt.
On ne veut pas ma chair pour nous. On veut ma chair pour que Dieu se dévoile et nous aidera à être prêt.
Mais y a pas que...
Tu peux te battre contre ton SRA, toi ? Moi, non. Toi, tu peux ? Non plus. Alors, ça reviendra et il va nous aider.
Au fur et à mesure, on peut devenir mieux encore. Si le
ok, mais au lieu de faire du 2 à l'heure, tu feras du 200.
Les comptes seront bloqués.
La chaîne est du 3 en fonction de comment tu as évolué en fonction de ton temps.
C'est un peu à nous de le faire venir. Enfin,
oui.
D'attendre, c'est vous.
Par nos actions, absolument.
Mais c'est
Attends, c'est pas s'asseoir, tourner les pouces. J'attends. C'est faire plus de Torah, plus de mitzvot, plus prier à Dieu, supplier Dieu que ma chair vienne. Il faut le faire. Regardez dans la Amida, combien en prise pour ma chair ? Il amène le Rédempteur pour les enfants des enfants d'Avraham Isaac Yaakov. Première bracha. Nahaya Metim, c'est la résurrection des morts. Après, Goël Israël. Après, Kabetz ramène tous les Juifs en terre d'Israël. Après, que amène nos conseillers et nos juges comme avant. C'est de nouveau l'époque messianique. Ça fait 5. Ensuite, qu'il n'y ait plus de réchaînement dans le monde. 6. Après, Yerushalayim, reconstruire Yerushalayim et le trône de David. 7. Après, Amen le Mashiach. Après, Tehazan et Moshe Rabbeinu, qu'on nous yeux te voir revenir à Sion. 9. Sur 19 brachot, 9 parlent de Mashiach. C'est les prières les plus importantes. Donc on doit être dans l'expectative et attendre cela. On va faire notre petite vie pépère et voilà. Comprenez ce qu'on vit. On a au nord du pays d'Israël un pays qui était notre pire ennemi. C'est marqué qu'à la fin des temps, Ishmaël tombe et Machiach revient. Ce pire ennemi qui est de Ishmaël, quoi il tombe? Des millions de personnes quittent le pays en risquant leur vie. On ne comprend pas. On ne va pas aller lancer une bombe atomique sur le pays et on peut encore continuer à vivre. Ils partent et ils vont en France, en Allemagne, en Europe, les migrants, plus d'un million. Le pays vide. Et là-bas, tu as un imbroglio, d'accord, de toutes sortes de puissances qui font la guerre entre eux. Je vais montrer à l'époque un graphique, un dessin qui montrait toutes les puissances, chacun, c'est impossible à comprendre. Et puis ce beau chidouche là, que j'ai raconté il y a pas mal de temps, je vous le répète, il est très sympathique. C'est marqué, à la fin de la parashat Chaye Sara. C'est marqué que Ishmaël a vécu 137 ans et il est mort. Le dernier verset dit, ces peuples-là ont vécu dans la région de l'Égypte, en venant vers Ashour, et à la fin du verset, c'est marqué, Atne kol echav nafal, en face de tous ses frères, il est nafal. Nafal, en hébreu moderne, signifie tomber. Mais Rashi explique, non, nafal signifie s'étendre. Comme en français, le mot s'étendre peut signifier s'étendre, tomber, s'étendre aussi. Les peuples se sont étendus. Et après, comment ça parachat d'après? Voici la descendance de Yitzhak, fils de Abraham. Le tour Balatourim, qui était un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, fait un commentaire là-dessus. Et il dit, le mot nafal signifie tomber, dans le sens que nous, on l'a aujourd'hui, pour nous dire que lorsque Ishmaël tombera, atnei kol echav nafal, en face de ses frères, il est tombé, lorsqu'il tombera à la fin des temps, Machiach revient. Ishmaël, c'est une puissance. Sa grande puissance était il y a 40 ans, à mon avis. La ligue arabe avec Nasser. Énorme. Ils les liguent tous ensemble. Les fédères sont super puissants. Et puis on voit comment Hachem, tac, 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 tac. Ils ont, l'un après l'autre. L'Égypte, guerre intestine. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Kadhafi, liquidé. L'Irak vient, Bush, le liquide. La Jordanie, l'Arabie Saoudite, ça va, ils sont tranquilles. Le Liban, ils sont plus grand-chose, il y a Hezbollah. Hezbollah, c'est l'Iran. L'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. Lui, c'est un ennemi dangereux, c'est marqué au début de Maseret Avodah Zara que Rome et Paras, la Perse, vont rester jusqu'à la fin des temps. Eux, ce sont les acteurs de la fin des temps. Restez la Syrie. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? La destruction totale de ce pays, c'est extraordinaire. Attends, je me suis dit comme ça. Si d'après le Balatourim, quand le verset dit « Apnei kol echav nafal, en face de ses frères, il est tombé », et quand il tombe Ishmaël, donc c'est pas qu'il est tombé, c'est pas le monsieur Ishmaël, le fils d'Abraham, qui est tombé, c'est la royauté d'Ishmaël, quand elle tombe à la fin des temps, vient Mashiach. Donc quand le texte juste avant, il nous dit maintenant la vie d'Ishmaël, alors d'après le tour, le sens simple, c'est, il a vécu 137 ans, mais d'après le tour qui fait un drash en un sens allégorique, cette vie de 137 ans, c'est quoi? C'est celle de la malchoute, de la royauté d'Ishmaël. Combien de temps elle va durer? 137 ans. Si le verset d'après, tu me dis, il est tombé, et tu m'expliques quand il est tombé, c'est la royauté d'Ishmaël qui tombe à la fin des temps. Donc quand le verset d'avant, tu me dis 137 ans, c'est 137 ans de sa royauté. C'est un peu court pour l'histoire, 137 ans. C'est un signe. Combien ça doit être? 1370. Ben voilà. On peut savoir quand va tomber Ishmaël. Il suffit de voir quand ça a commencé, t'auras la date quand ça va tomber.
Ça commence avec Ishmaël lui-même.
Ishmaël, il est mort il y a 3500 ans, Ishmaël, le monsieur, 3300 ans.
C'est vrai que ça a commencé les conquêtes ottomanes, ils ont commencé en 690.
Pas ottomane, ottomane c'est turc.
Ottomane
musulman. Alors, c'était quand? C'est ça la question. Des années que je me turlupine à savoir c'est quand que commence la royauté d'Ishmaël. Alors, l'égir. Mohammed qui commence à donner son message, c'est en 624. Mohammed lui-même, il est mort en 632. Puis après, il commence à s'épandre. Il y a des grandes bagarres, des grandes guerres en 648, etc. Bon, mais il n'y a pas de date claire. Et bah, Hachem, il y a quelques mois, tic, j'ai vérifié et c'est bon. J'ai vu la date fantastique.
C'était quoi alors?
Alors, vous n'avez pas raconté ça? 600. C'est quoi la royauté d'Ishmaël? C'est quoi la royauté?
L'unité.
Hein?
L'unité.
Il y a un endroit appelle vraiment l'endroit de la royauté du monde, c'est Jérusalem. C'est de là que Dieu régnait, de son temple.
Ah, donc c'est quand ils ont construit la...
Attends, attends. Et même dans la mystique juive, le temple s'appelle Malchut. Beth Amikdash s'appelle la Malchut, la royauté. C'est là que Hachem régnait. Les musulmans ont conquis Jérusalem, le mont du temple, en 638 de l'ère chrétienne. À mon avis, c'est ça. Alors, tu peux conquérir le monde entier, on s'en fout. Tu as conquéri l'endroit du temple où Dieu régnait. Ça, c'est de la royauté. 638.
Ouh, on se rapproche.
Alors, il faut faire 638. Si vous êtes bon en maths. 638. Plus, c'est combien la royauté de Ishmael, on avait dit 1370. T'as la date de la fin d'Ishmael. Roulement de tambour. 2008, bravo. C'est passé. 2008.
Ah,
on a espéré très fort en 2008. Tu regardes les cours de 2008, alors c'est chaud. Hein.
Est-ce que c'est possible? Ah, vous l'aviez dit, que le machin soit né en 2008 et qu'en fait le machin soit là et qu'il attend le bon moment pour se...
Non, c'est marqué que la malchoute, le royaume d'Ishmaël, il doit tomber.
Ah, ok.
Alors, la réponse, monsieur ?
C'est pas les mêmes années qu'on voulait
entendre. Quand David il a découvert Jérusalem, il a mis du temps avant de construire le temple dessus.
On s'en fout du temple, il a conquis Jérusalem, c'est la royauté, terminé. Qu'est-ce qu'on a à faire du temple ?
C'est-à-dire, il y a une petite page en plus.
Ah, c'est beaucoup plus simple le Tirutz, il est évident. Allez, Jonathan, quel âge tu as ? 17 ans. T'as 17 ans ? C'est pas vrai. T'as 17 ans. Et
9 mois.
Et pourtant, quand je te dis quel âge tu as, tu me dis 17 ans. Quand tu auras dit que Ishmael est mort à 137 ans, c'est le jour de son anniversaire des 137 ans, ça peut être jusqu'à 138 moins
un jour,
moins une minute, moins un jour, moins un jour. Maintenant, un an d'Ishmael, combien c'est?
C'est
10 ans dans l'histoire. Donc on a jusqu'à un peu avant 2018. Ah, là c'est bon.
Ça bouillonne, on sent là.
Ah, j'ai une question. Les calculs comme ça, ça fait longtemps qu'on les fait
ou... Ouh là là, chaque année j'en ai un.
On va dire, peut-être que j'en ai besoin.
Chaque année j'ai un calcul comme ça, super bon.
C'est bien, ça nous fait attendre la chair.
Voilà. Je dis toujours, ces calculs-là sont certainement faux. Mais peut-être, on espère, vrai. Ce n'est qu'un peut-être. Simplement, il y a une chose qui est vraie et qui est claire. Bon, messieurs, on est dans le mouvement. C'est comme une femme qui accouche. On parle de douleur d'enfantement du Messie. Quand vous aurez vos femmes qui vont accoucher, Beurth Hachem, vous verrez comment c'est. Elle est en phase d'accouchement. Et on lui dit, elle hurle, d'accord? Elle a des contractions très dures. Et la fête Sacha lui dit, allez-y, pousse, elle doit pousser. C'est la dernière. Si, c'est la dernière, ouais, elle pense vraiment. Elle pousse, et pour finir, elle n'est pas sortie. 30 secondes, elle peut respirer un peu, mais il faut même 15 secondes, 10 secondes, hop, tu fais encore une. Allez-y, c'est la dernière. Des fois, une heure comme ça, la dernière. Alors, on est en phase d'accouchement, c'est clair. Quand le petit bébé, il sort, personne ne sait. J'espère que ça commencera ce soir, Bezrat Hachem. Ma si demain, vous voyez, hein. Ma chère, s'il est là parmi nous, il paraît qu'il est parmi nous, ouais. Le Rav Chaim Kalinsky a dit qu'il est parmi nous.
Dans la pièce ?
Non. Impossible que ça soit dans la pièce. C'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Mashiach. Défaisons-lui Mashiach. C'est un homme extrêmement humble, qui souffre énormément, parce qu'il prend sur lui beaucoup des péchés d'Israël. Il connaît toute la Torah. Et comme ça, on disqualifie, parce que chaque semaine, quelqu'un m'écrit qu'il est le Mashiach. Alors, c'est bien, qu'est-ce que je fais? J'ai mis en contact. Écoutez, il y a un qui m'a écrit il y a 2 semaines au cerveau. Êtes-vous d'accord les deux? Après, appelez-moi. Un qui m'a appelé il y a 2-3 semaines, il m'a dit écoute, je suis occupé, rappelez-moi la semaine prochaine. Mais non, mais c'est super urgent. Je lui ai dit, écoutez, vous voulez mon avis? Allez voir un psychiatre et voilà. Non, c'est une maladie psychiatrique très connue. Les gens, c'est un ego non dominé. Beaucoup de gens se prennent pour le Mashiach. Alors, il doit connaître toute la Torah. Là, tu disqualifies tout le monde. Qui connaît toute la Torah? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et bon, ça serait un tzaddik énorme. Qui sait qu'il est Mashiach? C'est-à-dire qu'il y a une période où il ne sait pas. Puis à un moment, il sait. Il sait à un moment qu'il sera Mashiach.
Maintenant, nous, on sait qui c'est maintenant.
On pense qu'il sait. On pense qu'il sait. Il y a des gens qui disent qu'ils savent, qu'il sait. À un moment, il reçoit l'âme du Mashiach. Parce que lui, c'est un homme normal. Puis un beau jour, il y a l'âme du Mashiach qui descend en lui. L'âme du Mashiach se trouve dans un endroit au paradis qui s'appelle le Kansipor. Et quand Dieu décide, cette âme descend en lui et il reçoit tout son pouvoir. Il y a un rabbin qui a dit que dernièrement, il a reçu cette yirkida du...
Voilà, il a déjà été dans un autre corps.
Chaque génération, il y a un homme qui est susceptible d'être Mashiach. Je ne sais pas si c'est l'âme du Mashiach qui était en lui, en tout cas il est susceptible. Orach HaMakadosh, par exemple. Il écrit lui-même dans son livre. Attends, on sait que c'était le Rouach du roi David. Le roi David, c'est l'âme du roi David, le Mashiach. Et il écrit le Mashiach dont le nom est Chaim. Il s'appelle Chaim. Il écrit carrément comme ça. On sait que Baba Meir devait être Mashiach, le fils de Baba Salé. Bon, il y en a à chaque génération.
Et là, il y a quelqu'un qui l'a senti.
Pardon ?
Quelqu'un qui l'a senti.
Qui a senti ?
Qui a senti que ça arrivait. Vous avez dit un
rapport. Ouais, quelqu'un a dit normalement, ouais.
Baba Meir, il descendait de la mer.
Bah oui. Pourquoi ?
Le Rabbi Lubavitch, c'était lui de sa génération.
J'ai pas compris.
Rabbi.
Peut-être.
C'était pas Chaim.
Non, pas besoin qu'il s'appelle Chaim. Non, ça se peut.
Sinon, tout ma relation avec Chaim, il faut qu'il soit vivant sur Terre.
Il y en a qui disent qu'il peut venir du monde des morts. Mais normalement, le Rabbi Chaim Kalisk a dit qu'il est vivant, il est parmi nous. Aussi, c'est mélangé. Elle inclut, et Moshe Rabbeinu, David Ameller, elle inclut beaucoup en lui. Voilà. Donc c'est un homme, voilà. Le jour où Dieu lui dit, vas-y, dévoile-toi, il va voir les grands de la Torah, qui vont vérifier que c'est vraiment lui. Quand ils peuvent vérifier, il y a certains moyens. D'abord, il juge par l'odorat. Il pourra juger par l'odorat. Il pourra dire, lui, dans un cas de, je sais pas moi, un voisin qui a construit un cas de litige, à l'odorat, il va, tac, il dit qu'il a raison, qu'il a tort. Ensuite, Bissotav Yamitracha, il pourra tuer quelqu'un rien que par le souffle de sa bouche. Crève. Mais avec lui, ça marche, d'accord. Je ne sais pas comment sont les Tunisiens, mais lui, ça marche. Et ensuite, il devra faire quatre choses. Tant qu'il n'a pas fait ces quatre choses, on n'est pas certain que c'est lui. On a juste une présomption que c'est lui. Regardez quel point on est méfiant. On n'est pas encore. Après tout ça, on est bon. Peut-être. On n'est pas encore certain. Certain, il faut quatre choses. Un.
Il va montrer quand il va dire crève.
Je sais pas quand il va faire. Hein.
On a dit qu'il va arriver. On va voir qu'ils sont cachés.
Il est caché maintenant. Il va se dévoiler. Alors, il doit faire quatre choses. Qui sont ? Pas forcément dans l'ordre chronologique. Gagner les guerres de Gog ou Magog. Donc tous les peuples viennent en guerre contre nous pour conquérir Jérusalem. Ils gagnent.
Mais ils doivent pas comprendre.
Et sachez qu'on est en première ligne, ils viennent par le nord. Donc c'est là. Il y a toutes les collines ici et là, tout ça. C'est très extraordinaire. Après, construire le temple de Jérusalem. 3, rassembler tous les juifs de revenir en terre d'Israël. Et 4, construire le temple. Dans Tikkun Zohar, qu'est-ce que c'est? Le Gaon de Vilna, si c'est le nom de Tikkun Zohar. Le Rabbi Shmuel Yochai a écrit donc le Zohar. Et après, il a écrit Shivim Tikkunim, 70 Tikkunim. C'est 70 explications du mot Bereshit. En combinaison du mot Bereshit. Brit Esh, Bet Shabbat, Tren Shabbat, beaucoup de... Ok. Et là-bas, il explique les quatre moments dans lesquels il y aura différentes étapes du Mashiach. Il dit, à Pessah, on commencera à lever la tête de la galoute. À Rosh Hashanah, c'est la fin des ennemis de Dieu. À Shavuot, c'est Kibbutz Galuyot, tous les exils qui reviennent en terre d'Israël. Et à Sukkot, construction du temple. Donc c'est un tahalir, c'est un processus.
Ça doit être qu'avant Pessah.
Oui, mais ça se peut qu'on y ait déjà. Ça se peut qu'on y ait déjà, j'espère. Écoute, on se trompe toujours, mais on espère. Moi, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, on a vécu cet hiver une intifada extrêmement dangereuse. Celle des couteaux, que les gens n'ont pas compris à quel point on était sauvés. Parce que si ça avait marché, c'est-à-dire s'il y avait eu des résultats, et par miracle, il n'y a pas eu de résultats, mais c'est miraculeux. S'il y avait des résultats normaux, ça veut dire que il y a eu 230 agressions. Si par chaque agression, l'Arabe pouvait tuer 3 à 4 juifs, ça n'aurait pas eu 230 agressions, ça aurait été 230 000 agressions. Tu as 1,5 million d'Arabes ici. Tu as bien 230 000 fadas qui sont venus avec des couteaux pour Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y perd ? 60 vierges qui l'attendent là-bas. Alors qu'ici, ils se cassent les pieds. Donc c'est génial. Donc tu vas, tu tues des juifs et tu vas, et tu es aimé. En plus, le Hamas et l'Arabie Saoudite donnent beaucoup d'argent à ta famille. Enfin, c'est une très bonne affaire. Mais imagine qu'il y aurait eu beaucoup de morts. Ils ont vu ça marche. Ils sont tous venus. On a été fichus. Et Baruch Hashem, Dieu a fait un miracle extraordinaire. C'est marqué à la fin des temps, nos ennemis vont nous anéantir. Hashem, Shochel, Mission, Dieu demeura à Sion. On le voit ici, en terre d'Israël, à Sion, il y a une aide miraculeuse, des miracles extraordinaires de protection. Il faut le voir. Ça va pas être beaucoup plus grand. Il y a des péchés, beaucoup de péchés aussi en Israël. Alors il y a moins. Mais néanmoins, compte tenu de notre situation, Baruch Hashem, des très grands miracles. À mon avis, encore une fois, je peux me tromper complètement, je me trompe comme d'habitude, à Pessah, on a sorti la tête, ça s'est arrêté. En gros, peut-être il y a eu encore 2-3 attentats après, ça s'est plus ou moins arrêté. On est sauvé de cette antifada, elle est arrêtée. On espère dans 4-5 jours, la fin des ennemis de Dieu, ça peut être très très vite aujourd'hui, c'est pas compliqué. Si jamais Poutine, il y a 2 mois, il a fait on m'a envoyé la vidéo, il a fait une misibat itonai, on appelle ça un truc de journaliste, hein. Conférence de presse. Les journalistes, en leur disant aux journalistes, on ne vous raconte pas la vérité. On vous abreuve en Occident de mensonges. Sachez que l'Amérique rapproche ses missiles de ma frontière. Maintenant, avant, ils ne pouvaient pas rentrer avec leurs missiles, ils ne pouvaient pas rentrer en Russie. Maintenant, ils peuvent rentrer dans 500 km, maintenant déjà 1000 km. Je ne vais pas laisser faire. On va droit à une troisième guerre mondiale. Il a dit. Et Poutine, c'est pas un rigolo. C'est le seul qui n'est pas rigolo dans l'affaire pour le moment. Et l'Amérique resserre les taux sans cesse. Donc ça peut péter à n'importe quel moment. Entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Baruch Hashem. On doit remercier Dieu jour et nuit. C'est parce que Dieu amène la refoua avant la maca. Il amène le remède avant le fléau, avant la maladie. Le fléau, la maladie, c'est Ismaël. Les Arabes qui nous font tellement de problèmes et occupent l'endroit de nos temples, etc. Ça a commencé comment ? Ismaël, avec Mohammed. Mohammed. Mais les vraies conquêtes, c'était après qu'il est mort. Quand il est mort, Mohammed, Dieu a fait un très grand miracle. Mohammed, il n'avait aucun garçon, que des filles. La question s'est posée quand il est mort, qui maintenant va continuer sa mission ? Il y a eu 2 candidats. Son gendre, Ali, et son copain de combat, Abu Bakr. 2 mouvements sont sortis de cela. Ceux qui ont suivi Ali, ce sont les chiites. Ceux qui ont suivi Abu Bakr, ce sont les sunnites. Et ils se haïssent. Baruch Hashem, mais ils se haïssent. C'est phénoménal. À un point tel que les sunnites aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le fief des sunnites, ils ont dit, notre ami Israël, t'imagines ? Un temps, c'était interdit qu'un avion israélien même passe, atterrisse en Arabie Saoudite pour continuer pour l'Extrême-Orient. Parce que comment un pied sioniste peut-il marcher sur la terre sainte de l'Arabie Saoudite ? Aujourd'hui, le roi, il dit, ce sont nos amis, etc. Ils ont réussi à faire des trucs fantastiques. Nos amis !
C'est les sunnites, l'Arabie
Saoudite ? Sunnites.
Et c'est la majorité, ou c'est la petite partie ?
Ils sont beaucoup, mais les chiites sont très forts. Les chiites, c'est l'Iran. Le fief du chiisme, c'est l'Iran. Et là, ils sont en crise. L'Arabie Saoudite, maintenant, interdit les avions iraniens à venir au Hajj, à la Mecque. Ils coupent la route. Ils sont en guerre, déjà, dans le cadre au Yémen, déjà, par d'autres biais, ils sont en guerre. Et dernièrement, c'est le fils du roi, mais c'est lui aujourd'hui qui règne en Arabie Saoudite, le fils du roi, c'est le dauphin, mais il est aussi aujourd'hui le ministre de la Défense. Il a dit, j'ai pas peur de faire une guerre contre l'Iran. Et cet hiver, il a fait le plus grand exercice militaire de tous les temps dans la région, pour montrer qu'il a pas peur. Alors, il suffit qu'il s'excite les deux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les écrits des prophètes, c'est marqué que Dieu va faire il y aura un bain de sang à Bassora. Bassora, c'est quoi ? C'est la deuxième ville d'Irak. Si vous voyez un peu la carte, tu as l'Iran, je vous fais pour vous, d'accord ? Tu as ici le golfe Persique, tu as l'Iran, tu as l'Irak, était l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'Irak, il est grand et grand, il s'affine, il s'affine pour arriver ici au Golfe Persique. La terre d'Irak est très fine, et là-bas, il y a Bassora, la deuxième ville d'Irak. Juste au nord, c'est l'Iran, juste au sud, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et c'était quoi ce pays qui avait été conquis à l'époque par Saddam Hussein? Pas le Qatar.
Le Koweït.
Qui fait partie des Émirats avec l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, si les deux ils se rentrent dedans, ça se passe à Bassora. Dans nos écrits, c'est un bain de sang. Pourquoi je dis ça? Ça peut arriver chaque seconde. Il y a la Corée du Nord. Il y a un Maboul là-bas qui s'excite avec des bombes atomiques aussi. Il y a la Chine avec la mer d'Indochine. Ils prennent du terrain. L'Amérique amène ses bateaux et ça ne va pas. Donc, il y a la crise économique. Elle nous pend au nez. Aujourd'hui, il suffit d'une petite étincelle de rien. Ça peut aller très, 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 très vite. Donc, raison de plus pour se renforcer, monsieur. Attendre Mashiach, supplier Hachem qu'il y ait Mashiach, faire tchouva, surtout, aller à 5 minutes sur les filles. Parce que c'est aujourd'hui le Yetzirah numéro 1. L'arme numéro 1 du Yetzirah, comprenez, il y a une guerre entre la Kedusha et la Touma. Entre la sainteté et la Touma, l'impureté. La force de l'impureté, c'est les filles. Je raconte les filles, je parle des filles, l'attirance des filles, la pornographie, tout ce qui n'est pas d'après ce que la Torah permet. Ça s'appelle Touma. Et c'est une Touma extrêmement forte, très puissante, et la guerre elle est là. D'ailleurs, notre guerre elle est contre Ishmaël, on veut prendre l'endroit du temple. Ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Pour déloger Ishmaël, il faut arriver à faire qu'il ait moins de mérite que nous au niveau de la Brit Mila. Son mérite qu'il a, comme ça dit le Zohar, c'est parce qu'il a fait la Brit Mila. C'est à cause de cela qu'il a un mérite dans la terre d'Israël. La terre d'Israël s'appelle Sion. Sion. Sion, valeur de mérite, 156, c'est la même valeur de mérite que le mot Yosef. Yosef, dans l'allure humaine de la conduite divine, nous sommes construits à l'image de Dieu, il y a une conduite divine, des voies par lesquels Dieu agit sur terre. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. L'organe génital s'appelle Yesod. Yesod, c'est là-bas, ça c'est Yosef. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Le sixième, parce que c'est bien de monter la sixième montée au Sefer Torah. Vendredi, c'est un jour de Tikkun Abrit. D'accord ? Il y a six, c'est Tikkun Abrit. Tikkun de l'organe sexuel. Réparation de l'organe sexuel. Donc Sion correspond à Yosef, en valeur les deux, Yosef 156, Tzion 156. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la terre d'Israël et la Brit. La Brit, c'est-à-dire la conservation en sainteté de l'organe génital. Donc la bagarre, elle est là. Quand tu vois une bombe, alors c'est une bombe, Chassé Shalom. Et quand on a une bombe atomique, c'est une menace de bombe atomique, Chassé Shalom. Il ne faut pas jouer avec ça. Et Sarah se bat très très fort. Maintenant, les petites boîtes que vous connaissez, la histoire.
Téléphone.
Ça touche les yeux, ça touche les oreilles. C'est les deux organes les plus puissants que nous avons. iPhone. Terrible. Terrible. Il faut faire attention à cela beaucoup. Mettre des filtres. Ne pas tomber dans le panneau. Les factures sont terribles. Ça donne envie. On se dit, c'est pas grave. Il y a des factures terribles. 99%, voire 100% des souffrances qu'il y a sur Terre proviennent que de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la fin des temps, etc. Il se base sur ça. Il ne se bat pas pour le communisme ou pour le socialisme ou autre que de ça. C'est ça la grande bataille. Voilà. Alors, faire tout là-dessus. Très, très fort. Bert Hachem, ma chère, viendra et nous sauvera de tous ces iPhones. Amen.